19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Aïe, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, il est 19h, 19h dans quelques secondes. Merci d'être avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Et à 20h, alors, évidemment, plusieurs choses qu'on va partager ensemble. À la fois le coin de neuf à 19h avec le grand Fabrice Divizio, qui viendra ici, évidemment, nous exposer son billet d'humeur à 19h30. Un autre billet d'humeur, celui du Dr Majid Soussin. Et puis, vous savez, vous, auditeurs, oui, ceux qui nous écoutent partout en France, au 01 53 48 3000, vous venez commenter parce que les sujets sont assez chauds et sensibles. Alors d'abord, la guerre en Ukraine. Joe Biden qui annonce une aide militaire supplémentaire d'un milliard. Je pense à tous ces pays. L'Afghanistan, la Syrie, la Palestine, la Centrafrique, et j'en oublie le Mali, et j'en oublie encore. Que fait-on de ces pays ? Moi, je les appellerai tout simplement les pauvres oubliés. On parlera de cette guerre, parce que aujourd'hui, c'est essentiel. Je ne sais pas du tout s'il y a une sortie de crise. Ensuite, direction la Corse. Tiens, l'État d'Armanin qui est prêt à aller jusqu'à cette fameuse autonomie. Mais derrière le mot autonomie, qu'est-ce qu'on y met derrière ce mot ? Moi, je veux bien qu'on parle d'autonomie. Est-ce que c'est à la Polynésie française ? Bref, autonomie veut dire indépendance, veut dire quoi ? C'est un mot galvaudé, pour moi. À mon sens, on va en parler tout à l'heure. On reviendra aussi, vous savez, sur ce déclaration de Macron qui parle du RSA et... Ça fait enflammer la présidentielle, le RSA. Tout le monde en parle. C'est un peu notre carnet de tout à l'heure. Tout cela, c'est avec deux débatteurs que vous connaissez. Le brillantissime Gamal Abila. Ah, grande gueule, vous le savez. Vous le connaissez, hein, pour son franc-parler. Autre grande gueule, celui qui ne lâche rien, le pauvre. Il prend des coups, hein. Il en a pris des coups, il continue d'en prendre. C'est Philippe Nadji-Boyaki. Il est viré d'Europe Écologie Les Verts, mais il tient debout. Et il m'a dit un truc en off. Voilà, je ne les lâcherai pas. Il m'a fait rire quand il m'a dit ça. Clochette, il a droit à une clochette. Ça, c'est juste énorme. Voilà, après ce sommaire, vous le savez, je me permets de donner parfois mon petit avis, vous le connaissez. Hein. 01 53 48 3000, c'est parti. Et en toute liberté d'expression.
Je suis heureux que le calendrier m'ait donné cette chance inouïe. J'ai toujours eu la baraka tout au long de ma vie. Vive la République ! Vive la France !
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Je te kiffe, Jean Lassalle. Qu'est-ce qu'il est bon, lui ? Le Quad 9, c'est parti !
Les informés, le Quad 9.
Et vous le savez, comme chaque mercredi, ici même en direct, dans les informés sur Beurre FM, c'est le grand avocat Fabrice Divizio. Le Quad 9, c'est parti avec Fabrice Divizio. Bonsoir, maître.
Bonsoir, Adil.
Eh bien, on vous écoute pour le billet d'humeur. Vous avez décidé d'y consacrer. Allez, je laisse la surprise. Allez-y, la parole.
Je suis quelqu'un d'extrêmement religieux, mon cher Adil.
Oui.
Et à l'église, les gens ne voient pas Jésus, mais ils y vont. C'est pas moi qui ai dit ça. Mais c'est les adeptes d'Emmanuel, l'autre Emmanuel, je veux dire. Le premier est annoncé par Isaïe comme sauveur du monde, c'est Jésus le Nazaréen. L'autre est annoncé par les banquiers et les cabinets de conseil également comme sauveur du monde. Mais celui de la finance, c'est Emmanuel Macron. Vous le voyez, la comparaison n'est pas si stupide, et d'aucuns pourraient être tentés d'y voir un signe. Un enfant Dieu, un Emmanuel, né à Bethléem en Judée d'un côté, de l'autre un enfant roi, né à Amiens, un peu plus au nord, donc, mais quand même. Tous les deux ont une mission de salut et chacun l'exerce parfaitement. L'un sauve le monde, l'autre sauve les banques. C'est certes plus restreint, mais pas question d'en négliger l'importance. Au premier, on rend un culte. À l'autre, on loue une dévotion. Au point de tenir meeting sans lui, de chanter à tue-tête, tu es Dieu Emmanuel, je fléchis les genoux devant toi, ô mon roi. En marche. Chacun est en marche. Et regardez donc le nombre de kilomètres que Jésus a fait dans sa vie terrestre, c'est impressionnant. Et dès lors que le nouvel Emmanuel appelle son mouvement En Marche, ne faut-il y voir quelque chose de hautement symbolique et émouvant ? L'un s'est donné pour le salut du monde, l'autre a donné le monde pour le salut de ses amis fortunés. L'un marche à travers le désert, l'autre à travers le couloir des palais. L'un a dit « Bienheureux les pauvres de cœur », l'autre n'a nommé à sa suite que des pauvres d'esprit. L'un est mort, ressuscité et reviendra avec son corps glorieux, alors que l'autre a déjà un corps mystique, j'ai vu les photos. L'un a dit « Allez annoncer l'évangile », c'est-à-dire la bonne nouvelle, aux nations. L'autre a dit la même chose, en limitant juste le périmètre aux nations riches. « Vous le voyez, a-t-il, les adeptes de la République en marche n'avaient pas tort avec leur comparaison, et quand je vous disais que notre société n'était pas laïque, vous me croyez maintenant ?» Elle n'aime rien de plus qu'adorer les idoles.
Il y va fort. Qu'est-ce que vous avez pris, mon cher maître?
C'est ça, voilà.
Non mais sérieux, je me pose la question.
J'ai pris une petite dose de mépris. effectivement, voilà.
vous êtes bon, mon cher Fabrice. À la semaine prochaine avec autant de plaisir.
À la semaine prochaine.
Bravo. 19h05, tout de suite, le face-à-face.
Les informés. Le face-à-face.
J'ai laissé plus de temps le face-à-face avec Gamal Abina. Bonsoir, mon cher Gamal.
Bonsoir, Adil.
Qu'est-ce qui se passe? Vous avez une petite voix?
Non, non, je...
Ah bon, d'accord.
Je prépare
Vous ferez pas le trailer?
Je vais remonter la sauce au fur et à mesure avec Philippe.
Ça va, tout va bien?
Impeccable, comme d'habitude.
Face à lui, bien Philippe Nadji-Bouriaki. Bonsoir, conseiller régional, monsieur le conseiller régional.
Écologiste indépendant.
C'est ça, écologiste indépendant, ça existe, ça?
Ouais, je viens de l'inventer.
Je viens de l'inventer, c'est ça.
Non,
j'ai dit, ouais, ça existe. Moi, à ma connaissance, ça existait.
Non,
pas,
non, il y a, l'Alliance des écologistes indépendants,
oui,
qui était l'AEI.
Oui, c'est
qui
ça, l'Alliance.
Qui est devenue l'écologie au centre.
L'Alliance.
Et vous aviez le mouvement écologiste indépendant, MEI, d'Antoine Wechter.
Antoine.
Donc, je n'ai rien inventé.
J'ai eu bien. Messieurs, nous allons tout de suite commencer avec ce premier sujet. Beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire, justement. Joe Biden qui annonce $1 milliard, mais pas que, attention. Joe Biden aussi qui dit que, de toute façon, on laissera pas la Russie passer. Le plan de résilience, on va en parler, ça c'est le Conseil de l'Europe. Et puis aussi, autre discours, c'est celui de, je sais pas si vous avez suivi Joe Biden, qui dit vouloir faire payer à Poutine le prix fort. Va-t-il y arriver? C'est la question qu'on se pose, Gamal Abina.
Ça, c'est les effets d'annonce tout pourris. Hein. Faut être très clair. Là, on peut parler de choses qui sont pas très sérieuses. En vérité, pour avoir les moyens de faire pression sur un État aussi puissant que la Russie, faut être un peu sérieux. La Russie, c'est à peu près 20 à 30% des hydrocarbures dans le monde, réserves prouvées. La Russie, c'est 30% du marché mondial des produits agricoles. La Russie, c'est une puissance militaire incomparable. C'est eux qui ont le plus de têtes nucléaires de tous les états de la planète. Je parle des têtes nucléaires. La Russie, c'est les meilleurs avions de combat aujourd'hui et les moyens de porter des armées à distance, en l'occurrence des avions pour porter du matériel et des hommes qui sont extrêmement performants et extrêmement efficaces, on l'a vu en Afrique. Et puis surtout, la Russie, c'est quand même le pays qui a libéré l'Europe du nazisme. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est de se demander pourquoi on provoque les Russes alors qu'on n'a pas les moyens, je parle donc des États occidentaux, pourquoi on parle de sanctions économiques alors que les sanctions se retournent contre ceux qui les initient. Je prends un exemple très concret pour les Français parce qu'il faut qu'ils comprennent un peu ce qui se passe. La France, par exemple, Renault, qui va suivre le train des sanctions parce qu'il en est, il a l'obligation de le faire parce que les États-Unis ont imposé cette grande démocratie, Renault risque de perdre $1 milliard avec ses investissements en Russie parce que, précisément, les Américains qui sont, utilisons le terme exact, des faiseurs de guerre, Biden n'est pas un homme de paix. Les Américains ont surtout fait quelque chose de très grave. Ils ont poussé à la guerre en Ukraine. Ils ont soutenu quand même des groupes néo-nazis.
C'est la question qu'on se disait justement en off. C'est finalement, est-ce que Joe Biden n'a pas poussé?
Il y a une responsabilité.
La Russie, Poutine a attaqué.
Et aujourd'hui, ils les ont abandonnés. Donc les sanctions sont juste du maquillage. C'est juste du maquillage. Les sanctions économiques contre la Russie, c'est une façon de dire on essaie d'agir. Mais en vérité, rien que le pétrole, pour prendre le cas du pétrole, les Américains produisent du pétrole et du gaz. Demande aux Allemands d'arrêter d'importer du pétrole et du gaz. Les Allemands répondent par la négative immédiatement parce que s'ils n'importent plus, ils ont des réserves stratégiques qui sont à peu près estimées à 90 jours. C'est ce qu'on estime, hein, en réalité c'est beaucoup moins. Et s'ils n'importent plus de pétrole et de gaz, leurs industries ne fonctionnent plus et le pays tombe dans le noir. Donc la réalité, c'est que les Américains font des effets d'annonce, mais dans les faits, ils ont bien abandonné Zelensky.
Ah, eh bien. Il y va fort, hein,
ouais,
Philippe Nadji-Bouriaki.
Il va fort. Bon, alors, attends, pour remettre dans leur contexte, il y a quand même la Russie qui envahit l'Ukraine.
Donc, absolument.
Voilà. Pour diverses raisons. Une, pour l'annexion des républiques autoproclamées séparatistes du Donbass.
Absolument.
Mais aussi parce que la Russie voyait comme une menace les demandes réitérées de l'Ukraine pour entrer dans l'OTAN. Alors déjà, il y a plusieurs pays qui mettaient leur veto parce que pour entrer dans l'OTAN, il ne faut pas être en conflit avec des pays, etc. Parce que vous bénéficiez bien sûr de l'Alliance Nord-Atlantique, mais de la sécurisation et de l'implication. Et quand vous rentrez dedans, ça veut dire aussi accepter qu'on mette dans vos frontières des bases militaires, des missiles, etc. Et il faut rappeler que l'Ukraine est un pays riche dans ses sols, riche dans ses terres, et qu'elle est convoitée par tout le monde. Donc, mais aujourd'hui, on a quand même des civils en Ukraine qui meurent dû aux bombes. Et je serais un petit peu plus pondéré sur ce qu'on entend régulièrement à la télé quand on dit ouais la résistance fait que Poutine n'avance pas, il ne s'attendait pas à ça. C'est que Poutine n'a pas intérêt qu'il y ait beaucoup de morts civiles. Premièrement, parce qu'il faut continuer quand même à faire tourner l'administration et le pays, et pour ça on a besoin des êtres humains. Et deuxièmement, ça serait dévastateur au niveau de l'opinion mondiale. On voit que les réfugiés ukrainiens n'ont pas la même valeur que des réfugiés syriens, par exemple, parce qu'ils ressemblent, ils sont blancs.
Parce qu'il y a un racisme européen, c'est tout.
Oui, un racisme mondial.
Un racisme quoi, social mondial. Surtout, non, les termes étaient clairs, ils ont été clairs plusieurs fois. D'accord. Les yeux bleus, la peau blanche, ils sont comme nous, c'est des chrétiens. Tout ça, c'est des réalités. Mais là où j'ai envie de bon, il n'y a pas vraiment à polémiquer en vérité sur ce que tu dis, mais il y a une réalité. Poutine ne veut pas tuer de civils pour deux raisons. La première, parce qu'effectivement, ce serait contre-productif, il a l'intention d'avoir des bons rapports avec l'Ukraine. La seconde, parce que la moitié de l'Ukraine, c'est des Russes. Tout simplement. Donc il ne va pas tuer sa propre population. Et puis surtout, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a un précédent à ça. Là, on parle beaucoup d'Ukraine parce que les Européens, hypocrites qu'ils sont, font croire qu'ils sont offusqués par ce qui était annoncé depuis des années, à cause de ce fameux traité de Minsk qui n'a pas été respecté.
Ouais, 2014.
Mais surtout, il s'est passé exactement, je précise, hein, je suis bien précis, exactement la même chose dans les mêmes circonstances avec les mêmes faiseurs de guerre au moment où la Russie va envahir l'Abkhazie et l'Ossétie du Nord. Donc c'est des régions qui sont en Géorgie. La Géorgie qui est alliée de l'Occident sur le plan, soi-disant, il y avait une alliance stratégique, soi-disant, qu'il voulait développer. Eh bien, la Géorgie a été abandonnée, Saakashvili a été sacrifié parce que les Russes ont effectivement créé ces deux républiques indépendantes. On a les mêmes conditions, frontalier de la Russie, un pays qui veut être en rupture avec la Russie, un gouvernement qui a été manipulé.
Ce qui me fait peur vraiment dans l'escalade des déclarations, si on laisse pas tomber les Ukrainiens, ben on laisse pas tomber jusqu'au bout. C'est-à-dire que on y va militairement. Alors il y a plein de gens qui disent qu'il faut leur donner des armes, mais c'est des armes, s'ils savent pas les utiliser, ça devient un petit peu compliqué. Et puis c'est pas ça.
Par où ils passeraient, c'est tout.
Sauf que moi j'ai envie de vous poser la question, comment évidemment parler de paix, comment parler de diplomatie quand on voit Joe Biden envoyer un milliard donc pour une aide d'un milliard pour l'Ukraine, absolument militairement, oui. Je parle, hein. Comment peut-on parler de paix, poursuis, quand on voit toujours Biden qui annonce l'envoi de drones et de systèmes de défense antiaérienne à longue portée, comment dans ce cas-là on peut installer à la fois diplomatiquement un dialogue et à la fois aussi une paix?
Alors,
me semble-t-il, quand on s'appelle Poutine, quand on voit ça en face, est-ce que ça donne envie?
Simplement, je réponds très rapidement. Ça, c'est un effet d'annonce. Hein. Les milliards, ils ont déjà fait le coup. Ils avaient aussi annoncé qu'ils enverraient des soldats, 3000 soldats à la frontière polonaise. Tout se fait à la frontière, il ne se passera rien. La seule chose qui se passera, c'est que les Russes vont négocier dans un rapport de force ultra favorable, parce que de toute façon, l'armée ukrainienne était défaite, je vous précise quand même, en une journée. Il n'y a pas de combat aujourd'hui. Il y a une armée ukrainienne qui a été balayée. Il y a de la résistance dans les villes parce que les Russes ne prennent pas les villes. C'est que ça. Oui. Mais l'armée ukrainienne, l'armée a été balayée en une journée, 58 avions.
Et Kiev, alors, c'est Kiev.
Ce qui se passe, c'est que
Kiev. Qu'est-ce qu'on dit de Kiev?
C'est ça l'enjeu. C'est est-ce que oui ou non les Russes rentrent à Kiev? Ils peuvent rentrer depuis trois.
Mais ils sont.
Non, ils sont pas encore dedans.
Ils sont à périphérie.
Ils sont à 15 km.
Oui, ils sont dans le pourtour depuis quasiment deux semaines.
Bon, ils peuvent considérer qu'ils.
Non, ils ne sont pas là. On ne considère pas quand on n'a pas pris les capitales. Mais ce qui se passe, c'est que ce qui se passe avec ces effets d'annonce bidon, et moi je trouve ça honteux de leur part. Comment d'abord, je rappelle quand même que l'Europe et les États-Unis sont.
Et pourquoi ils ne veulent pas récupérer Kiev? C'est stratégique?
Non, c'est parce qu'ils ne veulent pas faire de morts. À Kiev, il y a des soldats qui sont.
Au milieu de la population.
Voilà, donc il ne faut pas prendre le risque de tuer des soldats dans la population. Mais vous vous rendez compte d'un truc incroyable. La France, l'Europe et les États-Unis ne sont pas en guerre contre les Russes. Mais ils ont une politique guerrière. Ils parlent que d'armement, d'envoi d'armement, de sécurité, de sanctions économiques, alors qu'ils ne sont pas en guerre. Moi, j'en ai dit un truc qui est très inquiétant par rapport à ça, juste pour finir. Par rapport à ça, moi, je considère que c'est absolument intolérable d'avoir ce comportement. Va-t'en en guerre alors qu'on aurait pu négocier. Il aurait suffi de dire pas d'OTAN en Ukraine, on arrête de faire cette espèce d'invasion des forces et des bases américaines sur l'Est et on s'en tenait là.
Alors justement, je lance la pub et on se retrouve tout de suite après. Évidemment. Avec Philippe Nadjiboyaki, avec Gamal Abina, 01 53 48 3000, on vous attend, le standard est ouvert. Vous aussi, venez participer, donnez votre avis.
Les informés reviennent dans un instant. Peur FM, 19h, 20h, les informés avec Adil Farkan.
19h21 précisément, les informés, c'est vous aussi, au 01 53 48 3000, nous allons aller direction le standard jingle.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Avant de retrouver Philippe Nadjibouriaki, nous allons accueillir Anan qui nous appelle de Créteil. Bonsoir Anan.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Bonsoir à vos invités. Bonsoir
on vous écoute, ma chère Anan.
Comment allez-vous déjà pour commencer?
Bah, moi, je vais très bien.
Très, très bien.
Et vous-même?
Même avec tout... bah, écoutez, avec tout ce qui se passe, je suis stupéfaite, en toute sincérité, de monsieur Vladimir Poutine, parce que, ouais, quand même, vu sa position, il est en position de force. Ma question était, pour quelle raison, en fait, n'a-t-il point encore attaquer l'Ukraine totalement,
ouais,
c'est-à-dire pourquoi n'a-t-il pas pris l'Ukraine avec
une bonne question.
Pourquoi il l'a pas pris?
Bah,
il aurait pu la prendre. Ça fait un moment.
Il vient de lever le bras. Gamal Abina va vous répondre.
Qu'est-ce qu'il attend véritablement de Emmanuel Macron et qu'est-ce qu'il attend et qu'est-ce qu'il attend en fait des Américains? On va dire que plus ou moins des Américains, je pense savoir ce qu'il
attend.
Mais qu'est-ce qu'il attend en fait de l'Europe?
Anan.
De l'Europe des 27.
Gamal Abina vous répond. Alors.
Bon, déjà, pour commencer, la première question, c'est pourquoi il n'a pas pris l'Ukraine? Il a pris l'Ukraine. Il contrôle quasiment toutes les villes du sud, de l'est. Il n'a pas pris Kiev. Mariupol, c'est encore en bataille, mais toute l'Ukraine est prise militairement et les Russes contrôlent toute la surface du territoire. Ils contrôlent sur le plan du ciel, contrôlent sur le plan des échanges, sur le plan de l'information.
Sauf Kiev,
parce qu'ils font un siège. Donc l'Ukraine est prise. Ensuite, concernant ce qu'il attend de Macron, alors commencer par Macron, il n'attend rien de Macron, parce qu'il ne croit pas que Macron et la France aient suffisamment de poids politique pour faire pression sur le seul interlocuteur qui l'intéresse, à savoir les États-Unis, Biden, Blinken. C'est ces gens-là qui veut avoir en face de lui à la négociation. Ensuite, ce qu'il attend effectivement, c'est que les Allemands agissent, parce que les Allemands ont un poids économique. Peu politique, mais beaucoup. Donc, ce qu'attend Monsieur Poutine, c'est effectivement de faire pression par les Occidentaux sur Zelensky pour qu'il aille à la tête des négociations. Et il se trouve que la pression est faite puisque les Occidentaux l'ont abandonné.
Merci Anan pour votre intervention. Merci.
Donc, une dernière question, si je puis me permettre.
Rapidement.
Oui, merci beaucoup. En fait, ma question a été par rapport en fait aux Allemands. Maintenant, en fait, que les Russes ont coupé le gaz en fait aux Allemands, est-ce que cela en fait dit en fait concrètement, est-ce que ça dit concrètement, voilà, de toute façon en Europe vous ne valez rien et c'est moi de toute façon qui va contrôler le monde. J'aurai comme partenaire la Chine et de toute façon vous serez totalement dépendant de nous.
Alors c'est ils ont
Gamal Abina.
J'ai pas eu cette information, je suis quand même étonné. Je vois pas où. Je sais que Nord Stream 1 est toujours actif. Nord Stream 2 n'a pas été activé.
Moi, j'ai pas cette information aussi.
Il me semble pas que le gaz ait été coupé. Je vérifierai, mais ça fait trois fois que je cherche.
Moi, je veux bien vérifier.
Ensuite, il faut savoir que les Russes savent parfaitement les rapports de force économiques. Ils sont le principal pourvoyeur de gaz de l'Allemagne à hauteur de 55% pour le gaz, 42% pour le pétrole et 50% pour le charbon. Donc, l'économie allemande est totalement dépendante de la Russie parce que l'économie allemande s'est ouverte à l'Est avec tous les pays qui étaient les anciens pays du pacte de Varsovie. Donc, Pologne, Hongrie, tous ces pays-là. Donc, je crois pas qu'ils aient coupé le gaz, mais par contre, les Russes pourraient faire un coup de pression en coupant provisoirement le gaz, et on le verrait immédiatement en bourse avec la chute des bourses allemandes, européennes en général, plutôt Euronext, et surtout on le verrait avec le décollage du prix du gaz, parce que si on coupe le gaz, immédiatement l'effet démultiplicateur dans les cotations internationales se ferait sentir. Donc je ne crois pas que ce soit
arrivé,
mais la pression est là.
Merci Anan de Créteil, merci de votre fidélité. Nous allons accueillir toujours au 01 53 48 3000 Larbi qui nous appelle du 92. Bonsoir Larbi.
Bonjour.
Eh bien, bienvenue. Quelle ville précisément du 92?
Alors, je viens d'Asnières.
On vous écoute du côté d'Asnières, Larbi.
Alors, j'avais une question sur la situation actuelle en Ukraine. Au vu de la situation déplorable et ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, je me demandais pourquoi est-ce que l'Ukraine insistait sur son intégration dans l'OTAN et pourquoi tout simplement les pays occidentaux n'ont pas refusé l'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN pour rassurer la Russie et pour mettre fin à la situation.
Excellente question, Larbi. Merci. C'est bien parce que les auditeurs, maintenant, ils commentent pas, ils posent des questions aux débatteurs. Excellent. Merci pour votre intervention. Qui veut répondre?
Oui, pas de problème.
Gamal Abina, allez-y.
Très rapidement, ce qui se passe depuis, il faut revenir sur l'historique, c'est important de rappeler ce qui s'est passé, parce que c'est vrai que la propagande qu'on observe aujourd'hui dans les médias français ne veut plus rien dire. Objectivement, avec la chute de l'Union soviétique en 91 et la fin du pacte de Varsovie, qui était une alliance militaire de tous les pays de l'Est contre l'alliance militaire de l'OTAN qui avait été fondée en 49, avec la chute de l'Union soviétique, les Européens avaient dit à Gorbatchev à l'époque, qui était le père de la perestroïka et de la glasnost, ils lui avaient promis qu'il n'y aurait pas d'extension de l'OTAN à l'Est. l'Est. Donc l'Est, c'est quoi? C'est les frontières des anciens pays d'Europe centrale et de l'Est. Et ils n'ont pas respecté leur parole par trois fois. Donc il y a eu une première vague d'extension négociée en 99, puis en 2004 et puis en 2007. On s'est retrouvé avec une Russie totalement entourée de bases américaines, parce que quand on parle d'OTAN, on parle des États-Unis. Il n'y a pas de base française à l'Est. C'est les États-Unis. Donc les Russes ont compris qu'on se fichait d'eux littéralement. Et quand Poutine arrive aux commandes en 99, il ne croit pas que les Européens vont manquer à leur parole. Mais ils le font immédiatement. Et ensuite, il a commencé à se sentir encerclé, il s'est inquiété, il a une stratégie de reconstruction de la puissance russe pour pouvoir stopper cette extension. Le dernier point important, c'est l'Ukraine. Et pourquoi l'Ukraine, c'est important? Pour des éléments. Parce que d'abord, l'Ukraine a été un des pays les plus grands collaborateurs des nazis dans les années 40. Ça, on l'a oublié. Mais il y avait vraiment une force ukrainienne incroyable. Et après, les nazis se sont retournés contre les populations ukrainiennes parce qu'ils les considèrent comme des sous-hommes, des slaves, parce qu'ils sont slaves aussi, comme les Russes. Mais au départ, ils ont collaboré. Il reste encore une réminiscence dans certaines sphères, pas toute l'Ukraine évidemment, certains mouvements politiques qui sont organisés là-bas et qui sont effectivement des néo-nazis, donc des nouveaux nazis, mais avec tous les codes nazis. Donc cette Ukraine néo-nazie a irrité Poutine, parce qu'il a le sentiment qu'on a poussé à nouveau, l'Ouest a poussé à nouveau les extrémistes chez lui, et en même temps, il n'a pas accepté la trahison des paroles de l'OTAN qui ne devait pas s'étendre jusqu'en Ukraine.
Et le deuxième point, c'était quoi?
Par rapport, il a demandé quoi? C'est quoi dire?
Non, c'était vous. Vous avez dit premier point, c'est ça,
voilà,
sur l'Ukraine.
Et le second point, effectivement, c'est une question de prestige soviétique.
Voilà,
ex-soviétique.
Tout simplement.
Les Russes veulent être
puissants. Voilà l'arbitre. Voilà l'arbitre. Merci pour cette analyse, mon cher Gamal Abina. 0153483000. Continuez à nous appeler. Évidemment, venez poser vos questions. Commentez aussi Philippe Lindji-Bouriaki concernant la guerre en Ukraine. Biden qui dit vouloir réfléchir à se rendre en Europe pour rencontrer ses alliés. Est-ce que finalement on peut trouver voilà, une voie pour sortir diplomatiquement de tout ça?
Oui, de toute façon, c'est indéniable qu'on va trouver, et je le souhaite le plus rapidement possible, parce que, comme je vous l'ai dit, moi, ce qui m'inquiète, c'est le sort des civils, qu'ils soient ukrainiens, qu'ils soient afghans, qu'ils soient syriens.
C'est vrai, vous avez raison.
Toujours les civils, avant tout, c'est eux qui payent trinquent. L'addition finale. Les grands s'en sortiront toujours, et ils n'auront rien à la fin, même en cas de reddition. Ils auront l'asile ici, dans des pays extraordinaires, et ils ont déjà des millions sur leur compte. Mais moi, ce qui me surprend sur la déclaration de Biden, enfin, ce qui me surprend, non, c'est la politique américaine. Le milliard en armement, en aide militaire, c'est pas en humain, c'est en logistique, mais c'est qui va en profiter? Ces entreprises américaines. Moi, je suis scandalisé par la décision de l'Allemagne. L'Allemagne a décidé, et à juste titre, on peut le comprendre, et d'où l'intérêt d'une Europe de la défense, mais qui prend les rênes de cette Europe de la défense? Je pensais que c'était la France qui serait en tête de gondole, visiblement non. L'Allemagne a dit, nous, on est en déficit, on dépend trop des autres, donc on va investir 100 milliards d'euros pour nous équiper et avoir une armée digne de ce nom. Mais ils achètent leur matériel chez qui? Pas chez les Français. Nous, on a les meilleurs avions au monde qui sont les Rafales. Mmh. Ils vont rester sur le tarmac, s'il vous plaît, et on va aller acheter des F-16. Regardez la Pologne. Moi, je suis très en colère contre la Pologne, pas contre les Polonais. Mais j'ai aucun problème. J'ai plein d'amis polonais et c'est des gens courageux, fiers, travailleurs. Il y a plein d'adjectifs qualificatifs superlatifs même pour pouvoir désigner ce peuple extraordinaire. Mais la Pologne. Là, ils ont donné leur MiG, gentiment, ils ont fait atterrir sur les bases américaines en Allemagne, mais pour dire, ok, mais donnez-nous vos F-16. Mais ils achètent quoi en général? Ils ont là, c'est les anciens MiG qu'ils avaient de l'époque, justement, où Gamal disait très bien au moment du pacte de Varsovie. Ils achètent du matériel américain. Moi, je suis désolé. Si on est européen, on achète du matériel européen. On achète du matériel. Alors, je sais que la guerre, mais on achète du matériel européen et aussi surtout français.
D'une phrase avant de passer au second sujet, le Sénat américain qui qualifie Poutine de criminel de guerre. Ma seule question, est-ce que cela ne risque pas de pousser d'inciter plutôt la Cour de la justice internationale, tout simplement, à engager des enquêtes contre Vladimir Poutine comme crime de guerre, Gamal Abina.
Ce genre d'accusation fantaisie de la part des plus grands criminels de guerre, je précise quand même que les Américains, depuis 1945, ont fait la guerre au monde entier sans jamais déclarer la guerre. C'est très important de le rappeler. Donc, de la part de criminels qui ont encore
bouché... Et même souvent sans mandat de l'ONU.
Sans mandat, mais sans jamais déclarer la guerre. Sur le plan du droit international, quand on fait une guerre quelque part, on déclare une guerre. Les Américains ne le font pas. Ils font exactement comme les nazis dans les années 30, 40. Ils ne déclaraient pas la guerre aussi. Donc, ce qui se passe, c'est que de la part d'Américains osé avoir l'outrecuidance de parler de vouloir poursuivre un chef d'État alors que le leur dort tranquillement à la maison, enfin, la Maison Blanche, ils sont nombreux, mais il y a quand même un paquet de criminels de guerre aux États-Unis. Je parle de Bush père, Bush fils, bon, le père est mort. Je parle d'Obama, je parle de
Clinton.
Clinton, absolument, qui s'est engagé vers son second mandat et s'est engagé à la guerre. Il faut savoir qu'effectivement, c'est fort de café. Donc, j'entends pas ce genre de choses. C'est pas sérieux. Encore une fois, on parle à une des plus grandes puissances de la Terre, la Russie, alliée à la Chine aujourd'hui. C'est une plaisanterie, il ne faut pas tenir compte de ça.
La Chine et l'Inde.
Bah, d'autres sons de cloche, évidemment, vous diront le contraire. Hein, mais bon.
Bah, sur les crimes de guerre, c'est
bon, bon. Allez, tout de suite, le Quoi de Neuf, ne prenons pas de retard. 19h31, c'est parti.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Avec le doc, docteur Majid Soussine. Bonsoir.
Bonsoir, Adil.
Comment ça va, mon cher docteur, chef de service à l'hôpital Sainte-Camille, mais également aussi aux Invalides chez les militaires et au SAMU. Plaisir de vous retrouver comme chaque mercredi. Et le Quoi de Neuf est consacré cette fois à la campagne. On vous écoute, à vous la parole.
Eh bien, écoutez, mon cher Adil, tout d'abord une question. Est-ce que vous respirez mieux?
Oui, je respire un peu mieux.
Ah,
nettement mieux, oui.
Plus de masque, vous pouvez montrer vos dents issues d'un bar à sourire.
Qui brille.
Un bar à sourire.
Ça scintille.
Ah, mais
le droit à le siècle, docteur.
Ne vous réjouissez pas trop vite, mon cher, car la chute du masque est tout de même une source de pas mal de déceptions.
Ouais.
Tout d'abord, on s'est rendu compte que beaucoup sous le masque avaient des peaux d'ado, pleines de tomélo.
C'est pas mal, ça.
Et on s'est rendu compte aussi que les barbes avaient blanchi. Ah,
oui. C'est vrai.
Regardez Édouard Philippe, un vrai naufrage.
Ouais, c'est vrai, un vrai naufrage.
Et je vous parle pas de ma barbichette. On va d'abord réapprendre à se maîtriser. Nous sommes de nouveau, messieurs, obligés de nous raser. Fini les sourires ironiques sous le masque ou les bâillements pendant les réunions ennuyeuses. Va falloir réapprendre les règles. D'accord, c'est plus pratique pour la campagne électorale, pour le sourire séducteur en serrant la main de la ménagère. Même si franchement, en ce moment, en termes de campagne, on est plutôt déçus. Il n'y avait que Zemmour pour remettre un peu de peps, mais même lui a un petit coup de mou. Malgré l'arrivée d'une nouvelle recrue, d'une nouvelle fan cette semaine qui a annoncé son ralliement, comme elle aurait annoncé une fausse couche. Je parle bien sûr de Marion Maréchal.
Une fausse couche.
Oh.
Je parle de Marion Maréchal qui est désormais un soutien actif de Monsieur Z, qui nous envoie cette semaine sa lettre, il envoie sa lettre à 3 millions de Français.
Wow.
3 millions, c'est peu, me direz-vous, Adil.
Oui.
Mais sachez, mon cher, qu'il a fait une enquête génétique et que seuls ceux qui ont pu produire un certificat d'arianité recevront le divin courrier.
Oh là là.
Il est fou, ce docteur.
Moi, je comprends pas. Ma boîte aux lettres reste désespérément vide, alors que je suis un pur kabyle comme lui.
C'est ça.
Pas de campagne, disais-je. On se demande pourquoi, pour quelques milliers de victimes ukrainiennes et 200 000 réfugiés qui se plaignent, ils n'ont qu'à demander aux 6 millions de réfugiés syriens ou aux millions de morts yéménites pour apprendre comment se tenir quand son pays est en guerre.
Tout à fait.
C'est vrai.
Et encore eux, dans leur malheur, ils ont un peu plus de chance. Ils n'ont pas à prendre la mer sur un zodiaque pour fuir la barbarie. Et eux, partout où ils se présentent, on les accueille avec le sourire et des tickets de métro gratuits.
Ouais.
Moi, pour ma part, je garde en sous-mémoire ceux qui tentaient de fuir dans les années 90 le GIA algérien et à qui on refusait des visas pour se mettre à l'abri.
Ouais.
Mais vous me direz, comparaison n'est pas raison. Et c'est exactement ce que me disait Jean Castex quand je lui faisais remarquer que sa remise de 15 centimes par litre à la pompe était de la pure démagogie à quelques semaines du premier tour. Et tout cela n'avait aucun sens, puisque même Adil Farkan, avec sa Porsche Cayenne, allait en bénéficier.
J'aimerais bien.
Ah, allait en bénéficier au même titre que la pauvre Madame Ducharme qui habite à Liarnay dans le Morvan et qui touche 550 euros de retraite agricole. Car quand même, mon cher Adil, il faut être naïf pour ne pas comprendre que ce que l'on nous donne en Super 95 E10 au printemps, on nous le reprendra en impôts à l'automne, une fois les élections passées.
Ouais.
Noël est en décembre, même si on a l'impression que depuis quelques mois, la France serait gouvernée, comme vous savez, on administre ses solderies, où on vous annonce des remises permanentes. Mais il faut savoir, mon cher Adil, que dans ces solderies, on ne trouve que des articles qui sont des fins de série. Ce qui ressemble de plus en plus à la France, malheureusement.
Ah ouais. Pas du tout.
Bravo, 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 bravo pour ce billet d'humeur. Bravo pour ce billet d'humeur. Docteur Majid Séhoussine, on vous retrouve la semaine prochaine sans faute, avec autant de plaisir.
Eh bien, plaisir partagé, mon cher, comme à chaque fois.
Prenez soin de vous.
Merci, Doc.
À bientôt.
19h36, nous allons marquer la dernière pause pub. Et on se retrouve tout de suite après avec Gamal Abina, avec Philippe Nadjiboyaki. Et cette fois-ci, nous allons parler, vous savez quoi ? Eh bien, de Gérard Darmanin. Il fait cette déclaration suivante. Nous sommes prêts à aller jusqu'à l'autonomie. Mais qu'est-ce qu'on y met derrière l'autonomie ? Eh bien, vous allez découvrir ça tout de suite après la pub.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
19h41 précisément, avec Gamal Abina, avec Philippe Nadjiboyaki, mais surtout vous aussi au 01 53 48 3000, partout en France, vous nous rejoignez et vous commentez aussi également l'actualité. Gérard Darmanin, nous sommes prêts à aller jusqu'à l'autonomie. Évidemment, qu'est-ce que cela veut dire quand le gouvernement est prêt à aller jusqu'à l'autonomie, quand Gérard Darmanin fait ce type de déclaration? Ça veut dire quoi, autonomie, finalement, quand on connaît la Corse? Et pourquoi cette déclaration maintenant, Gamal Abina?
D'abord, on va mettre un petit contexte.
Après plusieurs semaines de violence.
C'est intolérable de voir un ministre de l'Intérieur oser une sortie comme celle-là, alors que c'est le même qui était à la manœuvre concernant le séparatisme. Terme exactement qui s'applique à la Corse, à plein régime, par rapport à ce qui se passe.
C'est la première fois quand même qu'on parle d'autonomie en Corse.
Non, ce qui est intéressant, c'est que les Corses réclament la séparation de l'État français. On ne leur reproche pas. Ils se tapent en deux semaines parce qu'un homme qui a été... Alors, moi, je n'ai aucune relation avec les Corses. Yvan Colonna a été condamné, vrai ou faux, je ne rentre pas là-dedans, pour une action politique. Il a assassiné Erignac à l'époque. Ou il semble avoir assassiné Erignac. Il y a une enquête qui a été faite, il a été condamné. Il se retrouve en prison pour une peine de sûreté très longue, d'ailleurs, parce qu'il a fait 22 ans de prison, là. Et il est agressé par un type qui est d'origine, je crois, camerounaise, converti à l'islam, et qu'ils ont attrapé en Afghanistan. Un type qu'on dit radicalisé, parce qu'il a rejoint Daesh. Alors le problème, c'est que c'est la promotion à la violence du côté corse. On négocie immédiatement, on dit on doit calmer le jeu, et on vous propose autonomie. Et en même temps, il nous sort un truc, une bévue hallucinante, où il a osé dire, écoutez bien, c'est pas une blague, que donc un homme qui a été condamné pour avoir assassiné un préfet, d'accord ? Cet homme a été agressé par un type en prison. Alors déjà, la qualité de la prison se pose des questions. C'est quand même pas... C'est deux personnes qui ont quelque chose de lourd en termes de violence.
Bien sûr.
Et il dit quoi? Il dit c'est un crime terroriste islamiste. Voilà les sorties ridicules mises à l'intérieur. Il va dire que le type qui a attaqué Colonna pour des raisons qu'on ne connaît pas, c'est encore des raisons qui sont pas claires. Colonna est toujours, en plus, malheureusement pour lui, toujours dans le coma. Ils l'ont plongé en coma artificiel pour espérer qu'il s'en sorte. Il est resté 8 minutes asphyxié quand même, donc j'imagine des conséquences dans le cerveau. Eh bien, M. Darmanin met l'accent sur le côté terroriste islamique. Alors moi, je trouve ça intolérable. D'abord parce que il parle d'une chose qui est un fait de prisonnier, de tolard. Il n'y a plus d'idéologie derrière, même si la raison pour laquelle il aurait fait ça, c'est une insulte à la religion, semble-t-il. On n'a pas les détails.
Et on n'a pas les détails.
Côté,
on n'a pas les détails aujourd'hui.
De l'autre côté, ce qui est important de rappeler, c'est qu'il va donner des bons points à des gens qui, par la violence, réclament que Colonna, ou qu'il y ait une justice pour Colonna. Donc là, on a un problème. Dans les banlieues, on a eu des émeutes quand même qui ont duré quelques semaines. On n'a rien obtenu. Là, la Corse, ça bouge un tout petit peu. Il leur propose autonomie. Il y a un problème.
Alors pourquoi on en trouve la porte?
Il en trouve la porte parce qu'il a peur. Le problème des Corses, c'est que c'est pas des gens qui reculent. C'est le pays de Napoléon. C'est des gens qui ont une grande fierté. C'est des gens qui ont une vraie culture. C'est un pays qui a été rattaché à la France de force. Ça n'a pas été une adhésion. Et les Corses ont une très forte identité qu'ils réclament d'ailleurs, comme la tête de mort qui correspond au mauresque. Donc, les Corses se réclament une spécificité. Ils ont leur langue, leur culture, leur géographie. C'est un pays qui est totalement détaché de la France, mais la France la garde pour des raisons uniquement idéologiques. C'est le pays de Napoléon et on a besoin de montrer que la France brille par Napoléon. C'est tout.
Ah, bon. Philippe Nadjiboyaki.
Moi, j'ai interpellé le Premier ministre la semaine dernière. Je lui ai envoyé un courrier pour lui dire les choses suivantes. Si vous me permettez, c'est très court. Je lui dis que la Corse subit ces derniers jours des tensions extrêmes et qu'il faut mettre un terme à ces événements. Depuis plusieurs années, des demandes légitimes des familles de prisonniers ne trouvent pas écho auprès de l'État. Et donc, je me joins aux appels qui ont été faits par le président de l'exécution.
Là, c'est le conseiller régional qui parle.
Voilà, rappelons, c'est bien que tu dis ça, Philippe, parce qu'il a été incarcéré à Arles. Arles, c'est pas la Corse. Donc ça, c'est dégueulasse.
Et Yvan Colonna, ainsi que les deux autres prisonniers politiques, parce que je rappelle qu'Yvan Colonna a toujours clamé son innocence.
En plus.
Qu'il y a des. Bien sûr, j'ai une pensée pour la famille Erignac là-dessus. C'est indéniable. Tous nos pensées vont à sa famille, à ses proches. Mais Yvan Colonna a toujours clamé son innocence. Qu'il y a des chose très trouble dans le dossier et qu'il était ce qu'on appelle en DPS, détenus particulièrement surveillés. Donc c'est pour ça que...
Et la responsabilité de l'État dans cette affaire?
Mais carrément.
Concernant la détention,
ce n'est pas possible. Oui. Et puis depuis des années, les élus, le peuple corse, la famille, demandent l'application du droit, rien d'autre. Le droit, c'est quoi? C'est le rapprochement des détenus par rapport à leur famille. Vous imaginez même pas ce que ça peut coûter en frais financiers à la famille et en temps lorsque vous devez aller en métropole voir le vôtre. Il a fait ou il a pas fait, en tout cas il est condamné et pour une lourde peine. Et donc par conséquent, la famille a aussi des droits, on a des devoirs, mais on a aussi des droits, et que s'il avait été à Borgou, en Corse, avec les autres détenus, ceci ne serait pas arrivé, et on a demandé à plusieurs reprises, et je me suis joint aux demandes de plein de...
Vous avez eu un retour du ministre, du Premier ministre?
Non, du tout.
Mais c'est bien de rappeler un truc, Philippe, c'est bien que tu dises ça, j'aime bien ce que ton approche. Quand un homme est en prison, il ne faut jamais oublier, parce que l'homme en prison fait, qu'il ait commis ou pas, ce n'est pas le propos. Il est en prison, donc il subit une peine. Mais quand on met un homme en prison, on met sa famille en prison. Alors, toute la famille vit au rythme de la prison. Et le de les sanctionner doublement, là c'est la famille qu'on sanctionne, en le mettant pas dans la région de Corse, simplement sur l'île de Beauté, plutôt que sur le territoire français, c'est une punition à la famille.
Voilà, et c'est pas un traitement de faveur, hein, c'est la loi. J'ai une pensée pour la famille et les proches de Pierre Alexandri, d'Alain Ferrandi, qui sont aussi dans le même niveau. Alors, en tout cas, moi quand j'ai envoyé le courrier, je suis modeste, c'est pas mon courrier qui a fait changer les choses, mais c'est pour dire, écoutez, il y a des élus en métropole qui se joignent à l'appel du peuple corse, des élus corses. Il y a plusieurs députés, toutes tendances confondues en plus, y compris de la majorité présidentielle, qui ont demandé la même chose. Je me suis joint, c'est pas mon initiative, loin de là, mais pour demander le droit. Alors les DPS ont été levés pour tout, c'est pour les deux prisonniers qui est Alexandri et Ferrandi. Et Yvan Colonna est entre la vie et la mort.
Il faut rappeler qui sont ces deux.
Oui, ils ont fait partie. Enfin, voilà, ils ont été jugés. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais
alors depuis, sur l'autonomie.
Depuis des années, il faut bien comprendre que les deux dernières élections ont été remportées par les nationalistes. Mais quand on dit nationalistes, ça n'a rien à voir avec le Front National. Les autonomistes. Il y avait des indépendantistes là-dessus. Moi, je pense à toute mon amitié à Jean-Guy Talamoni et à Gilles Séméoni.
Mais cette revendication, d'accord, de longue date, hein, des nationalistes. Est-ce que c'est pour répondre justement, leur dire ce que vous venez de dire justement à ces nationalistes.
Mais c'est opposé.
Est-ce que c'est leur dire, ok, on va parler d'autonomie?
Non, mais il est très drôle. Est-ce que c'est un effet d'annonce? J'en sais rien. Moi, je demande à juger sur preuve. Mais en tout cas, je me rappelle à son déplacement en Corse du président de la République. Il y avait un écho favorable. Il est revenu à la métropole. Il a dit oubliez. Voilà.
Moi, ce qui m'inquiète dans l'histoire, c'est cette annonce.
Gamal Abidine.
Vous savez pourquoi? Parce qu'on a cru qu'il était mort lorsqu'il a été. Je vous rappelle quand même qu'il est resté 8 minutes sans respirer, quand même. Qu'il a pris une série de coups. C'était assez violent. On a cru qu'il était mort. Et moi, j'ai l'impression. Alors, je vais pas faire 10 de bonne aventure. J'ai l'impression que l'État français a peur. Pas parce que ils vont accorder une autonomie qui est réclamée depuis très longtemps. C'est pas dit.
Ouais.
Ils ont peur parce que peut-être qu'il est mort, simplement. Et que si on annonce la mort de Colonna dans ces circonstances calamiteuse, où la responsabilité des gardiens est engagée, de l'État. Donc, eh bien, si on annonce ça, ça risque de mettre le feu aux poudres. Parce que là, il n'est pas encore mort, semble-t-il. On a déjà vu ce qui se passe depuis 15 jours. Donc, imaginez si jamais on annonce n'importe quoi.
Non, mais ce qui se passe depuis 15 jours,
c'est le chaos.
Non, mais Adil, moi, j'ai entendu des commissaires de police sortir des grandes phrases. Pour avoir le calme et la sérénité en Corse, on n'a pas besoin de pyromanes, on a besoin de pompiers. Et d'ailleurs, les pompiers ont fait une très belle déclaration en disant stop, basta, les commissaires de police de métropole, restez tranquillement là où vous êtes. Nous, on sait ce qui se passe ici. Depuis des années, les Corses demandent au respect du droit, au respect de leur intégrité, au respect de leur culture, au respect de leur langue. Ils n'ont eu que mépris et la faute aujourd'hui est à l'État, et je voudrais qu'on arrête de stigmatiser la jeunesse de Corse qui s'est révoltée et qui crie à cœur cette envie d'aspiration de liberté. Et les urnes ont parlé, les autonomistes, les nationalistes ont remporté les dernières élections du double de participation de ce qui s'est passé en métropole à 70%.
Donc, alors, justement,
on
parlons
tout le peuple corse.
Vous avez bien raison et le débat continue. Je voudrais juste, parce qu'on va rendre l'antenne dans un peu moins de 3 minutes, le RSA, vous savez que toucher le RSA est soumis quand même à des contraintes. Vous le savez, ça je vous l'apprends pas. Et que Emmanuel Macron, il y a quelques jours, il a dit vouloir, pourrait durcir les conditions d'attribution. Est-ce une bonne idée? Est-ce que le dispositif, finalement, on se pose la question, est-ce qu'il est efficace?
Est-ce que c'est surtout sur un plan calendaire intelligent? Parce que d'abord, on a une France qui est frappée, comme tout le reste du monde, par une crise multiple. Hein, une crise structurelle, la crise du Covid, la crise de l'Ukraine, la crise de l'énergie, la crise de crise. Donc, bref. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'au moment où on a une crise importante comme celle-là, on estime que, actuellement, c'est 3,5% dans les projections les plus optimistes, qu'on aura une inflation à 5 ou 6%. Donc, une inflation considérable, donc une perte de pouvoir d'achat conséquente. Et au moment où on s'attend à une catastrophe de ce point de vue-là, on comprend que M. Macron, qui est un homme des milieux de la finance et de la banque, donc c'est un homme qui compte, qui fait des calculs. Je dis pas que c'est un... Moi, je reparle de Rothschild. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Il propose de serrer la vis, de récupérer ce qu'il a donné, parce qu'il a donné beaucoup d'argent pendant le Covid, et il le fait par la pire des méthodes, il va taper sur les plus pauvres. Il y a beaucoup de récistes, c'est vrai, mais il faut pas utiliser ces méthodes-là, parce que le RSA n'est pas un revenu très solide, et il va le conditionner au travail. C'est-à-dire que les gens qui ne trouvent pas de travail, qui sont au RSA, devront travailler pour le RSA.
Alors, attention.
Philippe Ndjibouyaki.
Moi, je veux pas être dans le dogme le plus catégorique, comme je vois chez mes copains écolos, devenir complètement fou et dire « Ah, oh, salaud de pauvre !» La seule chose qu'il faut dire, c'est que le RSA est donné et on va demander à des gens de suivre des formations pour pouvoir revenir à l'emploi.
À l'insertion.
Et
insérer les gens professionnellement.
Et puis, il n'y a rien de scandaleux de demander aux gens 8 heures ou 10 heures par semaine, on y va tranquille, de faire du bénévolat dans une association, de faire de l'accompagnement de personnes âgées, pourquoi pas de la traversée de rue. Voilà.
Mais j'ai des emplois comme ça, c'est pour ça que c'est...
Eh bien, merci, messieurs, c'était...
Je suis pas scandalisé.
Un bel échange, justement. Merci à Gamal Abina, à très vite.
Merci, avec plaisir.
Merci à Philippe Ndjibouyaki, à très
merci
vite également.
Merci à Dine, merci Beurre FM, merci aux éditeurs et aux
absolument, éditeurs. Merci à toutes celles et ceux qui ont été nombreuses à nous appeler au 0153483000. On n'a pas pu prendre tout le monde, mais bon, on est là pour ça aussi, hein, 0153483000 à la réalisation. Giovanni, et puis demain, on remet ça avec d'autres sujets d'actualité, d'autres éditorialistes pour le Quad 9, mais surtout aussi les auditeurs qui occuperont la scène au 0153483000 plus que jamais. Time Sport et Bilal Nedman, c'est de 20h à 21h. À demain avec autant de plaisir, mais surtout, on ne lâche rien. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.